La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Ahmed Youssef, membre de l'Institut d'Égypte. Vous publiez Kawa Arabica, un essai suivi d'un texte d'Antoine Galland intitulé « De l'origine et du progrès du café » chez Orient Éditions. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors Ahmed Youssef, ce livre est un petit bijou qui ravira les amoureux de l'Orient et les amateurs de café. Il y a votre texte et celui d'Antoine Galland, mais aussi des extraits du dictionnaire d'histoire naturelle et une profusion d'illustrations autour du café dans le monde arabe. Il y a également des paroles de chansons, des poèmes. C'est un livre qui se déguste, Ahmed Youssef, le véritable or noir du monde arabe. Pour vous, ce n'est pas le pétrole, c'est le café. Et vous nous donnez à lire ce texte rare d'Antoine Galland, que tout le monde connaît avant tout comme le traducteur des Mille et Une Nuits. D'abord, qui était Antoine Galland? Est-ce que vous pouvez nous rappeler son parcours?
Oui, d'abord, merci à Radio Orient et à vous-même de m'inviter pour parler de ce petit bijou, comme vous venez de le dire. Et permettez-moi aussi, avant de répondre à votre question, de rendre hommage à l'éditrice, Madame Isabelle Sayah Boudis, qui a bien voulu me confier le travail sur le texte d'Antoine Galland, dont je parlerai, et surtout pour faire la préface. Et elle savait que depuis très longtemps, j'avais très envie de faire quelque chose autour de l'or noir des Arabes et qui était le café. Et en plus, avoir mon nom associé à un nom, disons, mythique, celui d'Antoine Galland, l'homme qui a introduit l'imaginaire oriental dans la culture occidentale, vraiment, puisqu'il était le traducteur des Mille et Une Nuits. Le premier, tout premier occidental qui traduit les Mille et Une Nuits. Alors Antoine Galland, c'était avant tout l'homme de confiance, le bibliothécaire de confiance de Louis XIV. Et c'était le monsieur Orient, le monsieur Islam de Louis XIV. Et après, il est devenu le directeur de la bibliothèque, comme on l'appelait à l'époque, le bibliothécaire du roi. Et après, comme il parlait parfaitement l'arabe, le persan et le turc, eh bien Louis XIV lui a envoyé comme ambassadeur à Istanbul, longtemps. Et à partir d'Istanbul, Antoine Galland a fait des virées vers Damas, vers le Caire, vers la Perse, l'Iran actuel. Et après, c'est là où il découvre donc l'univers du café. Parce que, pour le situer dans l'histoire, là, on est un peu vers les années 60-70 du XVIIe siècle. Et le café, il était connu un peu en Orient, un peu, même beaucoup en Orient, mais très très peu en Occident. Au fait, si vous voulez, le travail d'Antoine Galland, il s'agit d'un traité sur le café, l'origine et le progrès du café. Parce que jusque-là, le café n'était pas connu, ni son historique, ni la situation, disons, politique, commerciale, de ce produit dans le monde d'alors.
Ahmed Youssef, avant de traduire les Mille et Une Nuits, Antoine Galland avait donc écrit ce texte sur le café qui est donc proposé aujourd'hui par Orient Éditions. Et vous le dites, l'apparition du café en Europe a été un véritable phénomène de société. Pour quelles raisons?
D'abord parce que c'était d'abord un privilège pour les privilégiés. Ce n'était pas un breuvage pour les couches populaires. C'est parce que le café, il faut le dire, il est sorti des bois, des forêts de l'Abyssinie et des plateaux du Yémen pour entrer dans les palais européens. D'abord, il a fait un passage très important au Caire. Et donc, le café en Europe est devenu un produit de luxe. Un produit uniquement destiné aux châtelains, aux princes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a découvert en Occident, d'abord, l'art turc et l'art arabe de fabriquer des services de café. Les tasses, les cafetières, etc. Donc, le café a fait son entrée en Europe, d'abord par les palais et par les châteaux. Et après, avec le temps, des révolutions, etc., c'est une longue histoire. Le parcours du café s'est terminé finalement dans les cafés, dans les lieux qu'on appelait le café. Et vous savez pourquoi, comme je le raconte dans l'introduction, que on appelle le lieu où on consomme le café dans le monde entier, hein, on l'appelle café. Pourquoi? Parce que l'histoire est une histoire mamelouque égyptienne. Quand le café est arrivé à la Mecque, là, on est au début du XVIe siècle, donc 100 ans avant l'arrivée du café en Europe, et le café, les mouftis ont interdit le café. Pour une raison simple. Ils ont pensé que le café, c'est une boisson diabolique qui pourrait empêcher les croyants de pratiquer convenablement la religion. Et en plus, le mot kawa en arabe, parmi les significations de ce terme, kawa, c'est le vin. Hein, on dirait, parmi le nom du vin, il y a le mot kawa. Donc, ils ont cru que le café fait partie des vins, donc, enfin, des boissons alcooliques interdites. Après, finalement, les sultans mamelouks du Caire ont obligé les mouftis de la Mecque d'autoriser le café. Et après, les mouftis de la Mecque ont demandé alors que si on autorise le café, eh bien, que sa consommation soit limitée dans des lieux spéciaux pour cette consommation. Et c'est à partir de là qu'on appelait ces lieux-là le café. C'est là où on consomme le café. Quoique, comme je le dis dans ma préface, les Italiens étaient à Venise, étaient beaucoup plus malins. Ils ont inventé, ils ont forgé le terme cafeteria. Parce que dans cafeteria, vous avez les deux boissons. Vous avez le café et vous avez le thé.
Et Ahmed Youssef, vous racontez dans votre préface l'importance du café dans votre maison d'Alexandrie. Le café est associé au souvenir de votre grand-mère.
Ah, merci vraiment beaucoup de m'avoir posé cette question sur mon enfance alexandrine et le café. Vous savez, Alexandrie était le port par lequel le café partait. Le café donc venait du Yémen et via la mer Rouge et l'atterrit à Suez sur la mer Rouge. Et de là, il n'y avait pas le canal de Suez encore. Et là, les caravanes le portaient jusqu'à Alexandrie pour l'exportation. Donc Alexandrie était historiquement le port donc de l'exportation du café vers le monde. Ce qui a fait qu'on a encore aujourd'hui des dépôts de café qui remontent au 18e et 19e siècle à Alexandrie. Je vous donne deux exemples. Vous avez donc un dépôt de café qui s'appelle Sofianopolo. Il existe encore. Alors Sofianopolo, c'était donc un grec ottoman, hein, comme c'était donc, vous savez que la Grèce faisait partie de l'Empire ottoman. Donc c'était un grec ottoman, et après c'est lui, donc il avait, je ne raconte pas ça dans la préface, il avait un accord avec le directeur des douanes d'Alexandrie pour qu'il lui passe une fois par mois une quantité de café pour le vendre, pour le faire consommer par les Alexandrins. Ce café existe encore aujourd'hui, mais il y a d'autres cafés à Alexandrie. Dans ma famille, si vous voulez, donc, les femmes ne pouvaient pas, c'était une remarque très importante, les femmes ne pouvaient pas aller consommer le café dans les cafés. Et les femmes restaient dans leur harem, derrière leur mousrabiya, etc. Alors, comment on faisait alors? On a inventé la cafetière en bois de la maison. Vous voyez cette sorte de moulinette en bois dans laquelle on mettait les graines. Et après, on commence à faire on commence à moudre le café, et après, on faisait la boisson avec. Et dans ma maison, donc d'enfance à Alexandrie, on avait plusieurs machines de ce type. D'ailleurs, j'en ai une à Paris, et que pour moi, c'était un souvenir de ma grand-mère qui, elle était Madame Café de la maison. Cette Kawa, la Madame Café, c'est elle qui était chargée tous les jours de faire le café le matin et dans l'après-midi. Et je vous raconte pas, mon cher ami, comment la maison était embaumée délicieusement par ce café torréfié. C'était vraiment un grand plaisir.
Ahmed Youssef, oui. Vous qui êtes un spécialiste de l'expédition de Bonaparte en Égypte, le oui. futur empereur a utilisé le café comme arme politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui. Alors, vous savez, c'est une histoire pas tout à fait connue en Occident. Comme j'avais de la chance vraiment de traduire la correspondance de Bonaparte en Égypte, il y a quelques années, en coordination avec la Fondation Napoléon à Paris et son directeur, M. Thierry Lenz, que j'ai trouvé dans la correspondance de Bonaparte plusieurs lettres relatives au commerce du café. Alors, au fait, Bonaparte avait un gros problème en Égypte, c'est le manque d'argent. Parce qu'en Égypte, l'Égypte de l'époque, on est en 1798, les Égyptiens n'utilisaient pas la monnaie, n'utilisaient pas l'argent. Et le système du troc existait encore en Orient, donc il n'y avait pas d'argent. Oui, Bonaparte, il va après créer lui-même donc sa maison de monnaie, où on frappait la monnaie, mais en attendant, il vendait aux consuls européens à Alexandrie et aussi à Rosette le café. Et comme il a vu que ça apportait énormément d'argent à la caisse de l'armée française en Égypte, il a pensé à créer toute une compagnie de café en Orient. En Égypte, aujourd'hui, dans la langue arabe égyptienne aujourd'hui, on appelle les sociétés qui vendent du café « kobaneïa ». Le compagnie, ça vient de la compagnie de Bonaparte. Et donc, il voulait monopoliser le commerce de café vers l'Europe. Et il a menacé plusieurs fois. Là, et après, je vais vous raconter une anecdote. Il a menacé plusieurs fois et la Turquie et l'Angleterre de lui priver du café s'il n'arrête pas de déclarer la guerre à l'armée française en Égypte. L'anecdote, elle est la suivante. C'est que, vous savez qu'après la bataille, le désastre naval d'Aboukir, où toute la flotte française a été détruite par la flotte britannique, de l'amiral Nelson, les Anglais ont fait le blocus de toutes les côtes égyptiennes. Mais alors, si vous regardez bien dans la réalité des choses, ils sont restés très longtemps, ces Anglais, et de ce fait, ils sont devenus eux-mêmes prisonniers de ce blocus. Ça veut dire, là, vous avez l'assiégé et l'assiégeant sont tous les deux dans la même situation. Et alors, Bonaparte a proposé à l'amiral Sydney Smith, donc l'amiral britannique, de lui fournir du café contre l'allègement, hein, un peu de souplesse dans le blocus, donc des causes égyptiennes. D'ailleurs, on pense sincèrement que c'est à cause de ça ou grâce à ça, cet allègement de blocus, que Bonaparte a réussi à rejoindre la France un an plus tard grâce à cette un peu inattention de la flotte britannique. Voilà l'anecdote qui est bien que vous trouvez dans la préface de mon livre.
Alors, ce livre, et notamment votre préface, est très riche en anecdotes, en effet. Et Ahmed Youssef, vous nous rappelez aussi que pendant des siècles, on a prédit l'avenir en lisant le marc de café, comme l'a chanté Abdelhalim Hafiz. Antoine Galland insiste, lui, sur l'étymologie du mot café, qahwa en arabe. Et vous-même, vous nous invitez à écouter Asman, la diva de la chanson arabe. Et puis, vous évoquez le mazagran, une tasse algérienne dépourvue d'anse, et c'est un nom qui date de la colonisation, et encore, il y a encore un rapport avec le café.
Oui, alors vous savez, c'est une très belle histoire algérienne dans le café. En fait, quand on regarde dans l'histoire du café, l'épopée du café, l'épopée du kawa, on trouve que dans chaque pays arabe, il y a une touche, il y a un effet quelconque. Et alors, on trouve pour le Maroc, on trouve en Tunisie, en Égypte évidemment, mais aussi l'Algérie. Au fait, comme vous venez de le dire, l'armée française, donc de l'occupation en Algérie, donc profitait beaucoup de cette situation de vainqueur de la première vague de 1830. Et après, il consommait les boissons alcooliques dans des verres qu'on appelait en Algérie, on appelle toujours d'ailleurs le mazagan. Vous savez, c'est une tasse, au fait, c'est une tasse longue, mais qui n'a pas d'anse. Et les soldats français se servaient de ces tasses pour consommer leurs boissons alcooliques. Mais, et le café. Mais alors, au moment des batailles, ils n'avaient pas le temps, au fait, de préparer tranquillement les tasses, des spéciales tasses de café, ou aller faire le nécessaire pour préparer un bon café. Donc, ils utilisaient les mazagrans pour boire le café. D'abord, vous avez évoqué la chanson d'Asmahan, qui s'appelle... en fait, il y a un jeu de mots dedans. Le titre de la chanson, c'est « Kawa », qu'on peut, les arabophones savent que le mot « Ahwa », ça veut dire « je tombe amoureux, je suis amoureux ». Donc, il y a le jeu de mots entre « café » et « amour ». C'est pour ça les soufis égyptiens du Moyen-Âge disaient que le café... c'est un espace d'amour. Une tasse de café est un espace d'amour. Et que, l'amour pour Dieu, évidemment. Et que ce café qu'aujourd'hui, les amoureux s'invitent d'abord pas seulement autour d'une tasse de café. Vous savez, c'est un espace de liberté. Hein, et que quand on commence à boire le café, c'est qu'il y a un boulevard qui s'ouvre devant nous. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la chanson d'Asmahan, que les lecteurs peuvent trouver sur YouTube, et non qu'à taper Asmahan et Ahwa. A-H-W-A. Ils vont tomber sur cette magnifique chanson des années 40, où elle chante avec sa voix que vous connaissez, qui est une voix suave, magnifique, où elle chante l'amour chanté par le café, avec le jeu de mots.
Effectivement, le café se prête à toutes les rêveries. Alors, c'est un livre magnifique que je recommande à tous les auditeurs de la bibliothèque de Radio Orient. Il y a aussi de magnifiques illustrations. Je pense à ces images de café mort dans votre livre. Et dans ce texte Kawa Arabica, vous nous rappelez que dans une tasse de café, il y a 4 siècles d'orientalisme et de relations passionnées entre l'Orient et l'Occident. Merci Ahmed Youssef. Je rappelle que vous êtes membre de l'Institut d'Égypte et vous publiez Kawa Arabica, un essai suivi d'un texte d'Antoine Galland intitulé « De l'origine et du progrès du café ». C'est publié chez Orient Éditions. Merci.
Merci.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.